Vos questions, nos réponses.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Vos questions, nos réponses, nous souhaitons aborder un sentiment éprouvé par beaucoup d'aidants, la culpabilité. Plus particulièrement celle ressentie lorsque vous êtes amené à confier votre proche à un établissement. Alors, comment faire face et comment dépasser ce sentiment? Pour répondre à vos questions, j'ai le plaisir de recevoir notre experte du jour, Laureline Roger. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes psychologue, vous accompagnez des patients et leurs familles ainsi que des professionnels dans le cadre de votre travail en EHPAD depuis déjà 15 ans, mais aussi depuis 2015 en tant que formatrice au sein de la Fondation France Alzheimer et maladies apparentées. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager au sein de la Fondation France Alzheimer ?
Alors, dans ma prise de poste, j'ai été amenée à accompagner en fait des personnes présentant la maladie d'Alzheimer ou apparentée, ainsi que des familles. Et justement, au sein de mon travail en EHPAD, je souhaitais aller plus loin en fait dans ma démarche d'aide auprès des familles, pouvoir intervenir en amont. Parce que finalement, les familles que moi j'accompagnais en EHPAD arrivaient bien souvent esselées en fait dans leur démarche, perdues. Bien souvent, elles les connaissaient en fait, la maladie d'Alzheimer, les répercussions, la manière de communiquer, de se comporter avec leurs proches, qui du coup générait beaucoup de regrets et justement de culpabilité. Donc c'est pour ça que j'ai voulu intervenir auprès des familles au sein de l'association France Alzheimer, d'abord au niveau départemental, directement en fait sur le territoire au travers des antennes, puis après au niveau de l'Institut dans le cadre de formation aux aidants, aux professionnels et aussi du coup aux bénévoles de l'association.
Du coup, vous allez pouvoir nous faire pas mal de retours d'expérience. On l'a annoncé, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans une relation d'aide, il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent, beaucoup d'amour, mais aussi de l'inquiétude et de la culpabilité. Cette culpabilité, elle peut être présente à différents stades de la maladie, notamment lorsqu'un aidant prend la décision du coup de placer son proche malade dans un établissement. Au moment de la prise de décision à ce stade-là, ou au tout début du placement du proche dans un établissement de type EHPAD, quels sentiments ou questionnements partagent avec vous les aidants que vous accompagnez? Qu'est-ce qui amène cette culpabilité? Qu'est-ce qui revient le plus?
Alors, ce qui revient le plus, c'est ce sentiment d'impuissance, de ne pas réussir à s'occuper finalement seul de leurs proches, de ne pas savoir faire ou de ne pas y arriver, que ce soit d'ailleurs pour des enfants ou pour un conjoint. Ne pas réussir à rendre l'appareil finalement, à faire ce retour de bienveillance, cette dette morale comme on parle aussi, notamment que les enfants peuvent éprouver envers leurs parents qui, tout au long de leur vie, leur ont donné justement cette bienveillance, cet accompagnement, ne pas réussir du coup à faire de même pour eux. Pour le conjoint, c'est la difficulté justement à être présent jusqu'au bout, en fait, à ne pas pouvoir vivre avec son conjoint malade jusqu'à la fin comme souhaité. Hein, c'est toujours pour le meilleur comme pour le pire. Finalement, ça résulte aussi de ces promesses faites et impossibles à tenir ou de ces projets qui finalement ne verront pas le jour dans la manière dont ils ont été pensés.
Et c'est très dur à vivre, en effet.
Très difficile à vivre.
Alors, pour ces proches-là, donc effectivement, vous avez évoqué peut-être la situation d'un enfant qui s'occupe de son parent ou encore la situation d'un conjoint. J'imagine que les conseils sont peut-être différents, vous allez pouvoir nous le dire. Quels sont les premiers conseils que vous pouvez donner aux proches aidants, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent et qui vivent cette situation actuellement? Quels pourraient être les premiers conseils un peu pratiques, on va dire, pour essayer de dépasser ce sentiment de culpabilité?
En tout premier lieu, ce que je fais notamment avec ma collègue infirmière coordinatrice en EHPAD, en fait, c'est la cadre de santé responsable des soins, des infirmières, des aides-soignantes, et souvent, en fait, lors d'un premier rendez-vous, on rencontre les familles ensemble. Et ce qu'on fait, c'est qu'on remet de suite, en fait, des explications claires concernant la situation, concernant aussi la maladie, les conséquences, les répercussions. Finalement, ce qu'on appelle, on fait un peu de psychoéducation, qui permet en fait d'indiquer à la famille les origines de l'impossibilité du maintien à domicile.
D'accord.
Qui permet effectivement que la faute ne repose pas entre guillemets sur eux, mais que effectivement le maintien au domicile est devenu impossible, en tout cas a atteint ses limites, de par l'évolution de la maladie. Donc ça, c'est une des premières choses que l'on fait, c'est donner des explications, des informations au sujet de la maladie.
Remettre finalement la situation en perspective, en fait, c'est ça?
Remettre la situation en perspective et surtout dans son contexte, que c'est avant tout une évolution de la maladie et non en fait un défaut de leur capacité ou de leurs compétences à eux.
Bien sûr.
La deuxième chose que l'on fait, c'est justement travailler sur le regard, sur la décision de confier son proche à un établissement. Du coup, on replace le regard dans la décision médicale où c'est le médecin qui a validé le dossier pour entrer en établissement. Donc en fait, la décision, c'est le médecin qui la prend, puisque nous ne pouvons pas accueillir de futurs résidents, puisque nous les appelons des résidents en EHPAD, hein, c'est leur lieu de vie, leur domicile. Nous ne pouvons pas accueillir de futurs résidents s'il n'y a pas de dossier médical. Donc en fait, la décision de confier le proche à un établissement, c'est finalement avant tout la validation du médecin. Donc c'est pas la famille qui porte en soi la décision, mais ça relève d'une décision médicale pour la santé de la personne malade, pour son bien-être, garantir son intégrité physique et psychique.
Et c'est important du coup pour les aidants que vous accompagnez d'avoir ce message quand même finalement ancré en fait en eux et effectivement de pouvoir enregistrer cette information.
Ouais.
Pour avancer.
Tout à fait. Tout à fait. Ce qui est important, le changement de regard, en disant également que la décision de confier son proche à un établissement, quelque part, c'est une décision altruiste, en fait, et non égoïste. Chacun, on voudrait garder ses proches auprès de soi. Et si, effectivement, on réfléchissait de cette manière-là, on n'agirait pas dans le bien-être, en fait, de notre proche, puisqu'on ne verrait pas, en fait, on garderait son proche malgré tous les dangers auxquels il peut être confronté en restant au domicile à partir du moment où toutes les stratégies d'aide au domicile ont été mises en place et ont atteint leurs limites. Donc ça aussi, c'est important à replacer, c'est que finalement, confier son proche à un établissement, c'est se soucier davantage, en fait, de la santé de son proche et c'est une décision pour le bien-être de leur proche.
Est-ce que ce sentiment de culpabilité peut évoluer, être un peu différent en fonction des stades de la maladie? Est-ce que ce n'est que au début, en général, qu'on a ce sentiment de culpabilité ou est-ce que ça peut être tout du long?
Alors, le sentiment de culpabilité, il intervient essentiellement au début de l'entrée dans un établissement. C'est vraiment ce passage, en fait, pour confier son proche à un établissement. Après, avec tout le travail qu'on met en place, avec l'accompagnement, le sentiment de culpabilité, il peut tendre justement à disparaître parce que à partir du moment où la famille voit aussi que le proche est bien, que l'accompagnement correspond à ce qu'ils en attendent, que justement la sécurité physique et psychique est préservée, du coup il y a moins cette culpabilité qui est là et au contraire en fait les familles peuvent après être reconnaissante.
Les familles s'aperçoivent en fait assez rapidement des bénéfices que peuvent avoir l'accompagnement et cela va de pair avec une diminution, voire j'espère pour eux, une disparition de leur culpabilité d'avoir mis leurs proches en établissement, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Quel type d'impact positif ils sont amenés à observer rapidement chez leurs proches?
Leurs premières observations, c'est que finalement leur proche, il est moins anxieux, il est plus apaisé. Que du coup, il se rend compte effectivement que il prend finalement progressivement des marques et que il se resocialise entre guillemets. En tout cas, c'est que il a un rythme de vie qui se renormalise entre guillemets un petit peu et que du coup, les interactions avec eux sont beaucoup plus sereines qu'à la maison parce que justement la personne est dans un environnement avec des personnes avec lesquelles il se reconnaît en fait et avec lesquelles il partage des points communs et donc il sent qu'il a sa place. Et ça c'est quelque chose qui est des fois même compliqué pour les familles au début à se dire que finalement ils peuvent parfois être mieux en établissement qu'à la maison. Donc ça aussi ça peut susciter une réactivation de la culpabilité que eux ils n'ont pas réussi à faire, mais c'est quelque chose justement que l'on travaille de la même manière avec de la psychoéducation et avec après d'autres stratégies pour mieux vivre et accepter la situation au quotidien.
C'est très intéressant tout ça. Et du côté des aidants, du coup, j'imagine que d'observer tout ça, forcément, ça a aussi un impact positif. Les aidants observent finalement cet impact chez leurs proches et cela a un impact positif sur eux également.
Oui, pas tout de suite, mais progressivement. C'est vraiment un travail qui nécessite du temps dans le sens où faut pas être impatient. La culpabilité ne s'en va pas du jour au lendemain, mais effectivement, en mettant en place des stratégies, en mettant en œuvre quelques conseils et aussi en continuant de voir son proche aller bien, c'est quelque chose au bout de quelques mois qui tend totalement à disparaître.
C'est forcément apaisant, c'est sûr. Et alors, vous faites des suivis avec les familles, mais vous animez aussi des ateliers pour les aidants. J'imagine que cette question de la culpabilité, elle y a une place assez importante, peut-être centrale. Est-ce que vous pouvez nous en parler concrètement? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers?
Alors, en fait, chez nous, on les appelle des cafés des familles. Viennent les aidants qui le souhaitent. On se réunit généralement, ça peut se faire en petits groupes. Nous, on a 5-6 aidants qui viennent. Et du coup, on discute de sujets qui leur tiennent à cœur, qui les préoccupent. Et le but, c'est d'échanger entre eux, de se diffuser certaines astuces, de voir qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation, que certains sont déjà passés par là et qu'aujourd'hui, ils en sont à une autre étape. En tout cas, ils ont avancé, ils ont évolué et ils ne ressentent plus ces mêmes sentiments d'impuissance, de culpabilité, de regret qu'il peut y avoir au début de l'entrée en établissement.
Comme un effet miroir, en fait.
Voilà, un effet miroir, c'est le même principe que France Alzheimer propose des groupes de parole pour les aidants. C'est vraiment faire rencontrer, en fait, les aidants pour qu'ils puissent échanger entre eux, parce qu'ils sont source, en fait, de créativité, chacun et d'initiative, et nous, on est là pour être le garant du groupe, pour que chacun puisse exprimer s'il le souhaite, pour remettre du sens aussi, et expliquer, leur faire comprendre pourquoi telle ou telle stratégie, telle ou telle attitude, tel ou tel comportement qu'ils ont eu fonctionne, en fait, et en quoi, justement, c'est bénéfique de le poursuivre. Par exemple, je me souviens d'une situation où on avait accueilli une dame qui avait 2 filles et du coup, une des 2 filles s'était occupée de sa maman et continuait à s'occuper de sa maman. La gestion veillait à ce que, justement, les soins dont sa maman avait besoin étaient bien réalisés. L'autre sœur ne savait pas comment se positionner dans sa relation avec sa mère. Elle culpabilisait parce qu'elle était moins présente que sa sœur et il lui manquait quelque chose dans la relation avec sa maman, et le fait de participer à ces cafés des familles, elle a pu trouver sa place dans la participation à des activités avec sa maman. Où du coup, elle a entendu que ici, le soin en tant que tel était réalisé au maximum, si je peux dire, par l'équipe de la résidence, par des professionnels, mais qu'elle, elle avait tout à gagner à partager avec sa maman des temps d'activité, que ce soit seule dans sa chambre, que ce soit avec d'autres résidents, sur des activités très simples comme le chant, puisqu'on sait que la musique se base sur la mémoire émotionnelle et que cette mémoire émotionnelle est présente jusqu'à la fin, en fait, de la vie. Donc, du coup, elle chantait avec sa maman, elle participait à une chorale et quand elle était dans la chambre avec sa maman, elle chantait avec sa maman et sa maman, du coup, chantait aussi. Et c'est de cette manière-là qu'elle a retrouvé une relation satisfaisante, apaisée avec sa maman et que, du coup, elle a été tout aussi présente que sa sœur, mais d'une autre manière et d'une manière qui lui convenait plus naturellement.
C'est magnifique. C'est un très bel exemple. Ça va donner, j'espère, pas mal d'espoir du coup à ceux qui nous écoutent. Merci d'avoir partagé cet exemple avec nous.
Je vous en prie.
Pour finir, est-ce que vous auriez, par exemple, peut-être le top 5 de vos bons conseils pour les aidants qui nous écoutent, qui vivent cette situation actuellement? C'est-à-dire comment, par qui se faire accompagner, comment faire face à cette situation?
Oui. Alors la première des choses, c'est de ne pas rester seul. C'est vraiment d'identifier les personnes ressources dans l'entourage, famille, amis, pouvoir échanger avec eux et pouvoir aussi justement échanger avec l'équipe de l'établissement. Nous, on est là pour ça. Il y a la chance aujourd'hui dans chaque EHPAD d'avoir la présence d'un psychologue à un temps de travail, soit partiel, soit temps complet. Donc c'est surtout effectivement de ne pas rester seul et de pouvoir s'exprimer. Le deuxième conseil, ce serait de favoriser pour les dents les activités plaisantes, parce que bien souvent, c'est quelque chose qui est mis de côté. Il y a certaines activités qui ont été arrêtées pour pouvoir s'occuper de leurs proches. Et il faut savoir que la quantité d'activités plaisantes, elle a un lien avec l'humeur. Donc, plus on fait des activités plaisantes, plus ça va nous permettre d'avoir une humeur favorable et positive. Et du coup, ça va permettre de contrebalancer ce sentiment de culpabilité. Dans les activités plaisantes, c'est aussi justement les activités de partage avec son proche. Et ça, ce serait le troisième conseil, c'est de participer à la vie de l'établissement. Soit en tant que représentant des familles, puisqu'on a une instance, hein, le conseil de vie sociale, avec un représentant des familles pour réfléchir au fonctionnement, à l'organisation de la structure. Et les familles peuvent aussi justement intervenir dans les activités, soit même proposer des activités. Hein. On a certaines familles qui sont devenues un peu des bénévoles et qui du coup proposent des choses à faire avec les résidents. Mais donc aussi partager une activité avec son proche, que ce soit dans sa chambre, que ce soit avec d'autres, hein. Mais être là pour les moments de bonheur en fait, pour les moments de vie. Ensuite, c'est que bien sûr, ça j'en ai parlé, c'est se laisser du temps, ne pas être impatient en fait. Se laisser du temps et le temps d'acceptation de la situation. Parce que, effectivement, on est humain, les choses ne sont pas dans un claquement de doigts. Et du coup, c'est important de se dire que, voilà, le début peut être difficile, mais la suite peut être meilleure. Ensuite, justement, dans ce temps, en fait, dont on a besoin, c'est s'autoriser, en fait, à ressentir. C'est tout à fait légitime de ressentir de la culpabilité. C'est un sentiment humain qui, du coup, en dit beaucoup sur les liens d'attachement que l'on a à son proche. Donc, la toute première des choses, même, peut-être, ce serait de s'autoriser à pouvoir ressentir cette culpabilité. Et à partir du moment où on l'a identifiée, on va pouvoir l'accepter et c'est là où on va pouvoir la dépasser.
Faut pouvoir accueillir ses émotions.
Accueillir totalement ses émotions.
Eh bien, merci beaucoup, Madame Roger, pour vos conseils.
Avec plaisir. Merci à vous.
J'en profite pour rappeler que vous animez des ateliers pour les aidants, mais aussi pour les professionnels. Alors, à celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'association francealzheimer.org afin d'en savoir plus. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.
Si vous aussi, vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.